très peu encouragés et où on oublie vite les gens qui nous ont fait rêver. On oublie vite ces gens-là qui ont fait des trucs super, qui avaient du talent en Nino Ferrer, on aurait pu faire des albums encore plus intéressants qu'il ne l'a fait, parce que nous, on connaît tous les grands classiques, les Vous avez pas vu Mirza, enfin, les trucs qui sont bien, ouais, mais qui sont un peu à la rigueur. C'est pas ce qu'il y a de mieux chez lui. Il avait la voix, il avait le sens du groove, il avait des trucs, il aurait été encouragé à travailler avec des producteurs, Ricain, tout ça, pour renforcer ce côté rhythm and blues qu'il avait. Il l'avait, ce mec-là. Voilà, mais on les a brisés, ces mecs-là. Et voilà comment ça finit, l'histoire.
C'est vrai qu'on
voit aujourd'hui un mec comme Renaud, c'est pareil. Renaud, c'était. Moi, j'allais voir les concerts de Renaud au Zénith. C'était un mec qui était généreux, qui avait un truc. Le système les a brisés. Le système peut être plus fort que nous. C'est des vies compliquées.
C'est même à la limite encore plus difficile maintenant où tu parles du fait que les gens zappent et voilà, à mon avis, les artistes ils survivent pas non plus des années à la grande gloire. Il y a juste les tout plus grands qui eux continuent, les dinosaures, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, des gens comme ça. Tu parlais de Bruel, bon, malgré tout, voilà, le succès est là et ne se dément pas. Il y a des grands artistes qui restent, qui sont là indéboulonnables. Et puis on a des artistes yaourt, des artistes jetables, j'ai envie de dire, Kleenex. Ouais. C'est pas valable vraiment dans le blues, ça. Enfin, moi, je le constate pas forcément dans le blues, par exemple.
Non, ça l'est pas, parce qu'on a la chance d'avoir un réseau et qu'il existe aujourd'hui des gens qui s'intéressent à la musique et qui la défendent, comme justement des radios, comme toi, le collectif des radios blues, comme des acteurs importants qui sont des gens comme Francis Ratto, qui sont des programmateurs comme Robert Moriès, qui sont des blues society. On a une blues society. Des mecs comme Fred Delforge, voilà. Tous ces mecs-là.
Jean Guillermo,
qui sont des gens de l'ombre, mais qu'on a en France et qui font supporter. Il faut supporter leur action. Et moi, je les remercie. Je les ai remerciés d'ailleurs sur mon dernier album, parce que c'est des gens qui se démènent pour sauver la musique vraie, que ça soit le rock'n'roll, le blues, ses dérivés, la country. Voilà, effectivement, qui aime cet aspect-là de la musique anglo-saxonne, et mais qui encourage tous les artistes français, dès qu'il y a des nouveaux artistes français qui se colle à ce truc-là. Je sais que il y a des relais qui existent. Voilà, et ces relais-là, il faut les supporter pour que des radios comme la tienne, celle que tu animes, ne meurent pas. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
J'ai envie de dire merci, Manu. On va écouter ça, tiens, justement, un petit peu. C'est un titre qu'on a passé il y a deux ou quatre semaines, je ne sais plus. C'était la première fois que je passais ton album, je crois. C'était il y a 4 semaines, voilà, quand il est sorti. Ça s'appelle Merci.
Merci pour le poison, ouais. C'est la vertu. Merci pour le boxon, ton amour qui tue.
Alors justement, on évoquait France Blues. Comment ça s'est passé en janvier 2014 lorsque tu es parti à Memphis là, pour défendre un petit peu les couleurs Frenchie finalement?
Ben oui, c'est super, on est parti à Memphis, c'était génial. Moi, je connaissais un peu Memphis, mais je connaissais pas du tout la ABC, qui est une réunion de toutes les blues societies du monde entier, ouais. Des artistes comme ça en émergence, les meilleurs, qui sont sélectionnés par la blues society à concourir sur cette grande compétition qui a lieu sur une semaine. C'était génial. Bon, on s'est fait sortir en quart de finale, mais sans regret, parce qu'on a rencontré des gens super, on s'est inspiré, on a vu, ça crée une émulation, et c'est super que ce genre de compétition continue à exister. C'est
Manu, il y en a d'autres qui se sont fait sortir en quart de finale, on les a quand même attendus gentiment à l'aéroport, hein, il n'y a pas de problème.
Franchement. Bon, le seul regret que j'ai, quand même, j'en ai un, je vais le dire, parce que je n'aime pas perdre. Moi, dès qu'on met dans un jeu, pour moi, il n'y a pas de meilleur en musique, c'est pour ça que c'est ridicule de faire une compétition, parce que moi je suis pas un exécutant de dingue, je fais ma musique avec mes tripes, moi, c'est tout ce que j'ai. Le truc c'est qu'à un moment donné tu rentres dans la compétition, donc tu as envie de gagner et tu rentres dans un truc très particulier. C'est pour ça que moi les émissions The Voice et tout, je regarde pas, je comprends pas le principe. Il n'empêche qu'on est parti en formule duo, c'est dommage, j'aurais voulu partir avec mon trio. Je pense qu'on était peut-être plus fort pour vous ramener la médaille, mais on la ramènera la prochaine fois.
C'est allez. Clair. Ça sera pas pour 2015 parce que les sélections sont déjà faites, mais pourquoi pas pour 2016, en tout cas.
Je plaisante.
Bien sûr. Manu, écoute, je voulais te remercier pour ta disponibilité, ta gentillesse et puis ta passion de la musique et ta passion des gens et des rencontres. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Je pense qu'il y a un mot qui t'est complètement étranger, qui doit être aux antipodes, c'est hypocrisie, quoi.
Oui, j'ai connu ça. Hein, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça depuis très, très longtemps. Vous savez qu'on a une... pour en venir, tu me disais si ça me dérangeait pas tout à l'heure de parler de ma filiation parentale. Non, cette filiation parentale peut susciter ce genre de truc-là. Donc je connais ça, et après il faut exorciser tout ça, et on sait reconnaître les vrais gens petit à petit, et puis ceux qui ont des préjugés, on essaye de les mettre à l'aise avec nous. Mmh. C'est tout ce que je fais, hein. Moi quand je me déplace, voilà, j'ai ma musique comme carte de visite aujourd'hui. Voilà, c'est ma musique pour moi. C'est moi, je fais la musique pour les autres. Hein. Je fais pas pour me masturber devant une glace. Ou pour être connu d'ailleurs, ni même pour vraiment vendre des albums. C'est très bizarre ce que je dis. Ma maison disque, elle écouterait ça, elle aurait une crise urticaire. Moi, je fais de la musique pour faire du live. Je fais de la musique pour cette heure et demie, ces deux heures passées avec des gens, on puisse communier ensemble une histoire plutôt positive pour faire front à tous nos problèmes quotidiens, voilà, qui sont la société compliquée dans laquelle on va évoluer ces prochaines années. Voilà, si pendant une heure et demie, tous ensemble, on peut filer quelque chose de plutôt... positif, mmh. Eh ben, c'est déjà ça de gagner. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, et moi, mon bonheur, je le prends lorsque les gens sont heureux. Voilà, c'est juste ça, la musique.
Manu, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous, j'avoue que c'est l'enfer quand on vit à genoux. Et les plaintes, et les prières, à quoi sert de rire après tout, puisque c'est nous, puisque c'est vous, j'avoue mes mots d'amour, j'avoue tous mes secrets à vous, qui pour moi n'êtes rien du tout. C'était justement l'intro de ce fameux troisième album qui s'appelait Faible Humain, un disque. Dis donc, je ne sais pas si c'est un signe, mais je n'ai pas réussi à le passer dans aucun des trois lecteurs de radio. Ouais, il passe dans la voiture, impeccable, nickel. Et c'est puis là, dingue. Voilà, je n'ai pas pu passer celui-là. On a passé les autres, mais bon, voilà. J'avoue, moi, ça m'avait tilté quand j'écoutais ce truc-là. C'est fort. C'est des textes qui sont forts quand même.
Faible humain, c'est très bizarre. Ça a eu un effet aussi bien. Il y a des choses qui sont dévoilées, comme Inga Lutwes. On a créé des associations avant qu'elles existent. Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. C'était juste un point de vue. C'était pas. On n'était pas en train de faire du people dans cet album. Les gens n'ont pas compris. On se sent mal interprété par Paris Hilton. Nous, on n'était pas en train de faire. On n'était pas en train d'utiliser la célébrité de Paris Hilton pour faire un morceau. Nous, ce qui nous a amusé de décrypter, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi les petites gamines de 16 ans ou les filles, pour pouvoir réussir, elles ont besoin de se mettre à poil, hein, n'ayons pas peur de le dire, à faire des sex tapes pour que d'un seul coup ça explose, avant même que maintenant ça devienne totalement banalisé. Toutes les filles à la télé, elles font tout ça. C'est-à-dire, voilà, et les photos nues, tout ça. Voilà, le côté grotesque et vulgaire du monde vers lequel on allait. Mmh. Il faut remettre ça dans le contexte. Le contexte à l'époque, c'était tout nouveau. Paris Hilton est la première, mais on l'utilise comme exemple, et je reste toujours j'étais curieux de comprendre où étaient passés les rêves de jeunes filles que toutes les petites filles elles ont lorsqu'elles jouent à la dinette, à la rêve de prince charmant. Où étaient passés ces rêves? Parce que voilà, on a tous envie d'amour. Comment d'un seul coup on peut faire une croix sur l'amour et rentrer dans une forme de vulgarité, de grossièreté? C'est ça qui m'intéressait dans Faible Humain. Faible Humain décrypte l'humain sur toutes ces mauvaises coutures. Il y a un titre qui s'appelle Faible Humain aussi. Oui. Voilà, à vous, on avoue tout, notre envie d'avoir de l'argent. Tout ça, moi, ce qui m'intéressait, c'était de décrypter. Voilà, le mauvais côté. Voilà, le mauvais côté.
Sans forcément tomber dans la morale.
Pas du tout, C'était juste une exploration. Oui. Faible Humain. D'ailleurs, cet album a coûté cher physiquement et psychologiquement, car vraiment, il est à l'image de ce que j'étais devenu. J'étais devenu un vrai faible humain. On m'a récupéré la petite cuillère à la fin de cet album. Viré de maison de disque, voilà. Là, après, j'ai connu le côté sombre. Donc l'album Faible Humain a eu un effet pervers sur moi, c'est que je suis vraiment devenu un faible humain.
Est-ce que tu referais un album comme Faible Humain, avec le même genre de message en blues, pourquoi pas en sixième?
On verra. Mais en tout cas, Faible Humain a eu un effet, un side effect, un effet secondaire sur mon psychologique très très néfaste. Donc je ne sais pas si je retournerai dans l'exploration du genre humain.
Manu, c'était vraiment un réel plaisir de discuter avec toi comme ça au poste sur le 666. Dernière question par rapport à ta prochaine date, tu reviens à Cahors la semaine prochaine, c'est bien ça?
Oui, mais c'est une petite participation.
Alors c'est ça, oui. Robert Moriès nous en a parlé justement sur la route du blues. Il y a Fred Chapelier, il y a Nico Wayne Toussaint, il y a...
Génial.
Et puis il y a comment il s'appelle, le chanteur de gospel, là ça y est, j'ai pas préparé mes fiches, tu vois. C'est le bordel ici. Craig...
Je n'ai pas non plus ouais, c'est ça, Craig Adams.
Craig Adams.
C'est ça, Craig Adams, c'est, oui. Ça, ouais, c'est ça. Super chanteur de gospel. Bah oui, c'est une soirée, voilà.
Création pour le festival, ouais.
Exactement, et on m'a appelé, ils avaient envie de ramener quelques artistes français, ouais. Robert m'a demandé si j'avais envie de m'y coller, et j'ai dit avec plaisir, venir jouer un ou deux titres. Et ce qui est marrant, c'est que ça va être le match retour. Il y a eu un match aller que vous n'avez pas vu, qui est moi et Terry Harmonica Bean, Terry Bean Harmonica,
oui,
que j'ai rencontré moi là-bas, totalement par hasard à Clarksdale, avec qui on a fait un bœuf, mais j'étais sur son terrain, et il m'a bien fait ressentir que j'étais sur son terrain, ouais. Le jour où nous avons joué ensemble pour Monkey, mais il l'a fait comme un vrai daron, un vrai du bluesman. Tous ces mecs-là, ils en ont tellement bavé, que quand un petit blanc-bec comme moi débarque, ils se font un malin plaisir d'essayer de le mettre à la page. Et c'est pas grave, parce qu'il l'a fait avec une forme, effectivement.
Mais t'inquiète pas, Manu, il aurait fait pareil avec Eric Clapton. Hein.
D'accord. Mais c'est super parce que tu veux le blues, ce petit blanc bec.
C'est
tu veux
ça.
Le blues, tu veux, bah viens, moi je vais te montrer comment ça se passe. Mais ceci dit, il s'est passé un truc magique pendant le concert qu'on a fait là-bas ensemble, improvisé, c'est que je devais jouer qu'un morceau avec lui là-bas, dans son cru, au Pau Monkey, à côté de Killian, Mississippi. Ouais. À la fin du premier morceau, j'ai reposé ma guitare et il m'a frappé sur l'épaule, il m'a dit, tu fais quoi là? J'ai dit, bah, c'est bon, tu m'avais juste permis de jouer un morceau avec toi. Il m'a dit, non, mec, pardon, tu vas rester avec tout le concert avec moi.
Excellent.
Donc voilà, et là, c'est le match retour. Il ne le sait même pas, hein, que je vais me pointer sur scène. Et je meurs d'envie déjà de diète pour voir la tête qui va tirer.
Ça, c'est pour mardi prochain, mardi 15 juillet, Manu. Manu Lanvin dans Sweet Home Chicago. Écoute, encore merci. On va continuer à écouter cet album qui s'appelle Sons of the Blues. Manu Lanvin and the Devil Blues. C'est le nom de ton groupe et on y tient. C'est pas Manu Lanvin, c'est Manu Lanvin and the Devil Blues, hein, c'est bien ça.
Exactement.
Merci Manu et à très bientôt sur la route
merci.
Du blues. Merci
et
encore.
Et à bientôt Marco.
Super.
À bientôt. Ciao.
I'm
going down. Down, down, down to Mississippi. Down to my hometown.
Voilà un nouvel extrait de cet album Sons of the Blues de Manu Lanvin and the Devil Blues. Encore merci Manu pour cette interview, pour le 666. Voilà, interview en direct live. C'est comme ça que je les préfère, les interviews. On poursuit avec Daddy MT and the Matches. Voilà, Mathieu Tessier qui nous avait bien plu cet album Let's Strike the Match. On va écouter tout de suite un extrait de Let's Strike the Match. Ça s'appelle Waiting for Your Love. Don't let us get so low, baby. Daddy Empty and the Matches, Waiting for Your Love, extrait de Let's Strike the Match. Voilà pour tous les amateurs de Chicago Blues et peut-être plus particulièrement des sons à la Magic Slim, un album chaudement recommandé. Reportez-vous à l'interview de Daddy Empty and the Matches par l'intermédiaire de leur leader. Donc c'était quoi, il y a deux semaines, hein, dans Sweet Home Chicago. Deux ou quatre semaines d'ailleurs, je ne sais plus comment je vis moi en ce moment. Mais c'est normal, il paraît que c'est normal en ce moment. Voilà. On poursuit avec du Frenchie. Là il est quoi, 14h24 à l'écoute du 666, on est ensemble jusqu'à 16h. Je n'oublie pas vos dédicaces en troisième heure. Je n'oublie pas non plus tout à l'heure l'interview numéro 2, l'interview de Jérôme Pietri qui va nous parler de la sortie de son album Gone Fishing. Voilà, moi qui suis parti à la pêche justement. Mais non, j'ai eu le téléphone juste avant, donc c'est ok. Si vous avez des questions pour Jérôme Pietri d'ailleurs, n'hésitez pas à intervenir sur le Facebook. Désolé Lisa, j'ai pas pu poser ta question parce que j'ai pas vu, c'est pas actualisé sur le Facebook. Quel est l'artiste blues qui t'a inspiré le plus? Moi j'ai envie de répondre à la place de Manu, je dirais Calvin Russell, mais je me trompe certainement. Inspiré le plus peut-être à ses débuts, c'est vrai que Manu il a écouté plein de choses, même très très jeune. Voilà, ce sera peut-être pour une prochaine interview ou alors rendez-vous sur la route du blues. Voici un autre bluesman, qui n'est pas connu en tant que bluesman d'ailleurs, qui fait quand même la couverture du dernier BCR, la revue de nos amis Joël Bison et Harold Rouchon. Je veux parler de Dick Rivers. Voici un extrait de l'album Rivers qui vient de sortir. Ça s'appelle « Tu m'as changé ».
Hier, j'étais comme vous et moi, plus qu'imparfait. Si par malheur le réveil pas question d'aller travailler. Au bistrot où je me traînais, faut bien commencer la journée. Aujourd'hui tout ça c'est terminé. Tu m'as changé.
Tu m'as changé, extrait de Rivers, le tout nouvel album de Dick Rivers, millésime 2014. Voilà, on poursuit avec encore du Frenchie, un album qu'on n'avait pas encore écouté dans Sweet Home Chicago, Big Joe Hunter and the Blue Beans, The Rabbit Huntress, ça s'appelle Gringo Blues.
By the break of day, reached over the pillow where my rider lay. The landlord came knocking on my door. He says, "Boy, you can't stay here anymore." Went down to the station. I took a train and round. I keep on rambling until the day I. And way up to Peru, Bolivia, Mexico, Colombia too, Canyon del Cobre in Machu Picchu, Panama, Tarte, Gringo, Benvenido al Sur. I've been hiking down, climbing too, the beauty of this world, I did not have no clue. Do you have a clue? Oh yeah, sure you have a clue. And my time ain't long. I need a place where I can find myself at home. Won't miss the water till you wear run dry. You don't miss a woman till she says goodbye. I may be right, I may be wrong. I need a girl to make the blues leave me. Morning by the break of day, reached over the pillow where my rider used to lay. Landlord came knocking on my door. He says, "Boy, you can't stay here anymore." Went down to the station, took the train and ride. I keep on rambling.
Voilà, Big Joe Hunter and the Blue Beans. On va maintenant écouter notre deuxième invité pour cette 940e Sweet Home Chicago, 940e émission. Il s'agit de Jérôme Pietri, extrait de l'album Gone Fishing. Voici Jumping in the Jungle et on l'aura au téléphone juste derrière.
Thank you. hometown. My mom and dad explained to the king people rebound. But it was a revolution and a brand new constitution. So then man could live in peace with the same rights and benefits. Are you ready? Hope you like it. So are you ready? Let's not fake it. Chopping your teeth and claws, cause today is the day. Jumping in the jungle, are you ready for some trouble? Living in the jungle, now the world is double. Jumping in the jungle, welcome to the new world. Living in the jungle, hear the wild and crazy bubble. The world is going crazy. People acting like fools. Politicians are hazy. They keep them valid tools to always earn the power, behaving like vampires. Bankers wait for the hell to cheat next potential buyer. Are you ready? Hope you like it. So are you ready? Let's not fake it. Chopping your teeth and claws, cause today is the day. Jumping in the jungle, are you ready for some trouble? Living in the jungle now, now the world is global. Jumping in the jungle, welcome to the new world. Living in the jungle, in a wild and crazy bubble.
Jérôme Pietri, Jérôme Pietri à travers son tout nouvel album qui s'appelle Gone Fishing. Jérôme, salut, comment ça va?
Oui, bonjour Marc.
Si tu m'entends bien, dis-moi. En direct.
Je t'entends, ça va, oui.
En direct
va,
de Clermont-Ferrand, j'imagine.
Oui, je jouais la nuit dernière, tu vois. Mais ça va, je repars tout à l'heure, mais je suis repassé par chez moi.
Waouh, les petits yeux, dis-moi, la vie de musicien dur en ce moment. Il y a de la date, ça tombe, ça suit logiquement la sortie de l'album.
Ça passe pas mal, non. Ouais. Non, c'est pas monstrueux, parce que j'ai eu mon album en retard, si tu veux.
Ouais.
Et donc, il aurait fallu, tu sais, j'ai enregistré en Hollande avec un producteur hollandais.
Avec Eric Spaniers, oui, bah oui.
Voilà. Je suis ravi d'ailleurs parce qu'on s'est très bien entendu, on a fait du super boulot. Mais comme il est très demandé, le mix a pris du temps et donc il aurait fallu que je l'aie, comme chacun sait, en septembre pour pouvoir bien dealer la saison des festivals 2014 et j'ai eu trop tard. Mais ça s'annonce super bien pour 2015 et là ça se passe pas mal, donc tout va bien.
Bien, donc ça, voilà. Ça veut dire que c'est un album, Jérôme, que tu as enregistré il y a plusieurs mois maintenant alors.
Ah oui, il y a un an.
Il y a un an déjà.
Il y a un peu plus même, Jean. Oui, ça passe très très vite, tu vois, tu prends des proportions.
Alors, c'est un disque qui voit une collaboration très étroite avec un certain Laurent Bourdier, Laurent du Buis Blues Festival, Laurent qu'on a eu au téléphone il n'y a pas si longtemps dans l'émission, qui a écrit la totalité des paroles du dernier Shaggy Dogs et de l'avant-dernier aussi, et puis également du dernier Jérôme Pietri, Gone Fishing maintenant.
Oui, Laurent est devenu un ami très proche par le biais du Buis Blues auquel j'ai joué il y a 5 ou 6 ans. On se connaissait déjà de loin, si je veux dire, depuis longtemps. Et en fait, C'est vrai que Laurent m'a beaucoup aidé, parce que si tu veux, j'ai pas mal travaillé sur les textes sur cet album, mais n'ayant pas, hélas pour moi, appris l'anglais à l'école, Laurent, j'ai trouvé, si tu veux, la plupart des thèmes, la plupart des titres, pas mal de refrains, mais n'ayant pas appris l'anglais à l'école, j'avais besoin de quelqu'un D'accord. qui m'aide à m'exprimer dans un anglais correct. Et Laurent m'a beaucoup aidé, puis il a écrit certains textes, tout seul d'ailleurs, des textes sur lesquels j'avais uniquement, tu sais comment ça se passe, des fois t'as tout qui vient en même temps, texte, enfin parole, mots et musique, mais des fois, bon, sur certains il y avait que la musique, et là Laurent a tout écrit, voilà, donc je suis vraiment ravi, D'accord. ça s'est passé super avec lui.
Donc ça c'était une véritable collaboration, soit oui. pour t'épauler, soit carrément pour écrire des textes, des titres qui collent à ton passé, qui collent à ton vécu actuel.
Ah, complètement, les titres c'est complètement autobiographique, si tu veux, les textes, d'ailleurs, et même le nom du disque, le truc volontairement un peu provoque, comme fishing, avec le post-it sur le front, tu vois, c'est, disons que les textes sont des constats, on va dire des constats plutôt amers, ironiques sur l'évolution du monde d'aujourd'hui, et donc si tu veux, je parle notamment de ce qui mérite le plus, du culte de l'argent roi, qui est devenu la valeur suprême au détriment de toutes les autres, et même de la vie humaine, hélas. Et donc, ça touche pas mal de domaines auxquels je suis hypersensible. Mmh. Et donc, ma réaction, l'histoire de gun fishing, c'est que, au lieu de dire comme certains, brûlez tout, ou tuez-les tous, ou prenez de l'alcool, ou prenez de la drogue, ma réaction, c'est gun fishing. C'est, voilà, je pars à la pêche, c'est ma psychothérapie, ça m'évite de devenir fou dans ce monde que je trouve fou.
Alors ça va mieux en le disant, effectivement, Jérôme, parce que going fishing, je sais pas, ça pourrait aussi être interprété comme j'arrête de voter, tout se pourrit. Tu y as pensé?
Ah non, c'est pas du tout ça.
Non, je vois bien. Donc, oui.
C'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je vote, si tu veux, tout le temps, bizarrement, qui est à passer pour un fou. Voilà, je considère que c'est important, que c'est une preuve de responsabilité. Non, ce que je veux dire, c'est un clin d'œil. Il faut bien voir aussi qu'il y a un petit côté second degré quand même, oui. ironique et autodérision, d'où le post-it gun fishing, tu vois, collé sur mon front délibérément, tu vois. Mais, comment dire, pour moi, d'une part, effectivement, c'est vrai, c'est complètement authentique, puisque je suis passionné de pêche à la mouche, c'est ma psychothérapie, et que dans ma vie personnelle, sont la musique et la pêche qui m'ont sauvé la mise tout le temps. Et d'ailleurs, là, je vais essayer avec cet album, et ça n'est que le début, ça s'annonce très bien, d'établir des parallèles entre blues et pêche à la mouche, aussi bizarre que ça puisse sembler, car pour moi, ils présentent de grandes similitudes en ceci que tous les deux sont plus qu'une façon de jouer. Le blues, pour moi, c'est plus qu'une façon de jouer, et la pêche à la mouche, c'est plus qu'une façon de pêcher.
D'accord.
Les deux sont tombés dans un délire intellectuel, mais les deux représentent des philosophies, des arts de vivre, des façons de concevoir la vie. Voilà, il y a beaucoup de similitudes.
Et ça, tu t'exprimes en anglais pour le faire, Jérôme, malgré, tu viens de l'avouer, que ça ne soit pas une langue que tu maîtrises au niveau de l'écrit. Hein, je ne parle pas au niveau du chant. Parce
oui,
que là,
au niveau de l'écrit, oui, parce que je comprends. Je suis allé, grâce au rock'n'roll, au blues, je suis allé aux États-Unis, il y a longtemps déjà, aux États-Unis, en Angleterre. Je me débrouille, voilà. Mais c'est au niveau de l'anglais littéraire, si tu veux.
Voilà,
j'ai besoin d'aide. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est uniquement ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, sinon, pourquoi on peut me demander pourquoi j'ai écrit en anglais.
C'était la deuxième question, voilà, exactement.
Voilà, et bien, tu vois, je me fais peur tellement je suis intelligent, tu vois, modeste.
Voilà. Ah, tu sais, attends, Jérôme, les grands hommes sont modestes. Je suis, voilà. je suis modeste aussi. Hein.
Tu vois, je ne l'invente pas, tout le monde le dit. Sans qu'on va bien s'entendre. Donc, si tu veux, ça c'est un point de vue complètement personnel qui n'engage que moi. J'ai écrit en français il y a fort longtemps. J'ai travaillé avec Murat, entre autres, il y a fort longtemps, qui est un vrai poète, qui est quelqu'un qui a une grosse culture littéraire. Ouais. Et donc j'apprécie. Mais d'abord, il faut être conscient de ses limites. Je considère que je n'ai aucun talent en tant qu'auteur. Voilà. Si tant est que j'ai un peu de talent, c'est tout en ce qui concerne la musique. Et qui plus est, au point de vue émotionnel, c'est la musique qui me touche.
Voilà une modestie qui t'honore, Jérôme. J'ai envie de dire, cet album Gone Fishing dans ta discographie, enfin un album entièrement slide, non?
Entièrement, pardon ?
Entièrement slide guitare.
Ah, oui, il y a beaucoup de slide.
Ah, oui.
Il n'y a pas que de la slide.
Mais dis-moi, tu te fournis chez Philippe Renaud ou chez Pedro le Crazy pour tes instruments ?
Ah non, au début, ça a été Phil.
Ouais.
Pedro le Crazy fait des trucs superbes, d'ailleurs, on est très potes. Et il va organiser un festival de One Man Band l'année prochaine, auquel il m'a convié, d'ailleurs j'en suis très très content.
Ouais.
Mais en fait, j'ai découvert ces fameuses guitares bidons qui ont changé ma vie au buis. D'ailleurs, il y a 4 ou 5 ans, le temps passe tellement vite. J'ai complètement flashé là-dessus. C'est vrai qu'on joue en slide, mais après, j'ai beaucoup travaillé sur cet instrument, si j'ose dire, improbable. C'est assez difficile, puisqu'il n'y a que, deux notes et trois sons. Donc effectivement, j'ai joué en slide, mais j'ai travaillé l'harmonie beaucoup dessus. Un peu comme font les jazzmen qui ne jouent que les enrichissements, qui sélectionnent que deux notes ou trois notes, c'est des enrichissements.
D'accord.
Moi, j'ai fait une démarche un peu similaire, mais avec les deux notes dont je disposais, mais pas uniquement en slide, parce que j'ai toujours la prétention dans mon orgueil incommensurable de vouloir essayer de faire de la musique. Et donc, j'ai travaillé des doigtés qui me permettent de jouer des harmonies, pour sortir de l'open tuning et de la slide, que j'adore parce que j'en use et en abuse, tu l'as fort bien, relevé.
Oui, oui, surtout dans cette
Je veux pouvoir partir partout où je veux. Je veux pas être bloqué harmoniquement par l'open tuning.
D'accord.
Et la slide. Donc, je me suis fait construire même par un pote que j'ai trouvé du coin, un malade, Phil Booz étant trop éloigné, étant pris par le temps, et Pedro en Bretagne, c'est pas évident. Mais j'ai trouvé un extraterrestre vers chez moi, qui a beaucoup de talent et qui arrive à concrétiser mes délires. Donc, en l'occurrence, pour l'album, je me suis fait construire une bidon double manche avec une guitare et une basse.
C'est la Castrol, c'est ça?
Ah non, ça, c'est pas la Castrol. La Castrol, c'est le projet original du Buis. Voilà.
D'accord.
Et c'est ce qui m'a donné l'idée, qui m'a fait délirer. Mais
d'accord.
Comme j'avais beaucoup travaillé, tu sais, sur mon projet Little Blue Story, dans lequel je présente l'histoire du monde,
et oui.
Dans des écoles, j'avais beaucoup travaillé beaucoup de styles de blues, dont le Delta, et puis même, le style de blues rural, dans lequel les gens, vers 1930, tout ça, faisaient toujours tourner une basse, parce qu'il fallait qu'ils fassent danser les gens dans les tube joints. Donc, ils faisaient un orchestre, et ils arrivaient à faire trois instruments en un avec une guitare. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça. Et je me disais, depuis 3 ou 4 ans, après avoir bien déliré sur le bidon Castrol, je me disais que ça serait génial si je trouvais quelqu'un qui puisse me monter une vraie corde de basse avec une sortie séparée pour faire vraiment l'orchestre encore.
D'accord,
plus, ouais. Tu vois, ce qui m'éclate de plus en plus. Et tous les luthiers me disaient, non, c'est pas possible. Je voulais un instrument avec des barrettes, tu vois, pour pouvoir m'évader, si je le désirais, bien sûr, de la slide et des limites harmoniques de l'open tuning. Et tous les luthiers m'ont dit pendant 2 ou 3 ans, c'est impossible parce que c'est pas les mêmes diapasons. Guitare, voilà, les manches de basse, c'est beaucoup plus grand.
Mmh.
Les manches de guitare, ça sera faux. Et j'ai trouvé un malade qui a relevé le défi et qui l'a fait. Donc j'ai enregistré avec cette chose improbable.
Et un malade
en Hollande.
qui donc fabrique des guitares qu'on peut citer. Il habite dans ton coin, Jérôme?
Oui, il s'appelle. Il est amateur d'ailleurs, mais c'est très dommage parce que il a un grand talent, il est complètement fou dans le bon sens du terme. Il s'appelle Marc Pommier, voilà. Et il m'a réalisé le premier prototype qui n'avait pas de barrette au début.
D'accord.
Avec une caisse de gâteau Landon, un manche à balai, un manche de piochon. Et ensuite, il m'a fait un autre instrument plus jouable avec des barrettes cette fois-ci. Et là, à ma connaissance, je suis le seul à utiliser ce genre de truc. Il y a des Américains qui jouent avec ce système de double manche, mais avec deux manches à balai, ils ne peuvent jouer qu'en slide. Des
oui.
gens que j'adore, par exemple, comme Richard Johnston, que j'adore vraiment, mais qui joue en slide tout le temps, donc il est limité par l'open tuning, il ne peut jouer qu'à chaque fois, il fait 3-4 titres et c'est fini, parce que sans vouloir dénigrer le système, ça finit par tourner rapidement.
Oui, oui, c'est ça, toute formule.
Toi, guitariste, tu sais,
c'est limite.
Ça parle. Voilà.
Ah oui, non, mais moi, pareil, j'étais guitariste, mais absolument pas technique du tout, mais bon, c'est pas moi qui...
Non, non, mais t'es guitariste.
Dis-moi, Jérôme, on t'a entendu dans Little Blue Story en solo, on t'entend dans cet album en solo, mais avec pas mal de heureux, parce que tu joues la basse, tu joues de la batterie, tu joues plusieurs guitares.
Oui, j'ai tout fait.
T'as tout fait dans cet album-là. Et tu oui. produis également en groupe, je veux dire, moi, je t'ai déjà entendu avec les Shaggy Dogs, hein, par exemple, notamment, et tu assures la guitare solo comme un pro, et puis tu es un pro, d'ailleurs, Jérôme, non?
Bah, c'est mon métier, disons,
hein, quand même.
Grandiloquent. J'aime pas trop employer le terme parce que ça peut paraître un peu grandiloquent, mais disons que oui, je gagne ma vie en jouant de la musique depuis
Mais il faut surtout pas s'en excuser, voilà. Parce qu'à l'heure où ça devient difficile, franchement, quand on peut encore le faire. On avait Manu Lanvin au téléphone tout à l'heure, je sais pas si tu as pu entendre l'interview, lui, ben voilà, il revendique également son art et puis l'indépendance de sa musique, malgré la médiatisation qui est là, qui existe, et puis qu'il faut surtout pas dénigrer, je crois. Enfin, après, voilà.
Ah non, que nini, tant mieux pour lui. Lui cartonne vraiment, puis un an ça prend d'ampleur, ben tant mieux. Hein.
Ouais.
Moi, je veux dire que plus il y aura des gens qui jouent du blues qui cartonnent, plus je serai content, c'est évident.
D'ailleurs, tu t'es muté en programmateur pendant quelques mois, voire quelques années, du côté de Clermont-Ferrand, et tu en connais un rayon de l'autre côté de la barrière, j'allais dire.
Oui, complètement, c'est une expérience intéressante. C'est un ami qui m'a poussé, voilà, et donc. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps pour mon album, tu vois, ça m'a fait perdre pratiquement 2 ans, mais c'est pas grave. Hein.
Et comment voilà, s'appelait cet établissement? On en parlait l'autre jour avec...
Le Goldies.
Voilà, c'est ça, le Goldies. Donc, il n'y avait pas une erreur, effectivement, dans l'interview qu'on avait pu faire avec Aurélien Moreau. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter Aurélien Moreau dans
Sweet Home Chicago. Oui, voilà. Bien sûr.
Mais on l'avait au bout du fil il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Et puis on évoquait donc le fait que tu aies également été programmateur. Tu dis que ça t'a fait perdre du temps pour ton album, mais est-ce que ça t'a fait gagner en expérience par ailleurs?
Mais c'était une excellente expérience, je ne regrette pas. C'est vrai que je peux regretter, juste en tant que musicien, que bon, j'ai perdu au moins un an, voire deux, si tu veux, pour sortir un album. Puis tu sais ce que c'est, il faut toujours avoir de l'actu. Comme me disait Nina Van Horn, tu vois que je suis au téléphone avec les petits amis aussi. Voilà, on est obligé, voilà. Et donc là, ça m'a fait perdre du temps, mais d'un autre côté, c'était une expérience très très intéressante, effectivement, comme tu l'as dit, de passer de l'autre côté de la barrière. Et puis, bon, j'ai perdu ce temps parce que je suis assez extrême. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc là, c'était un challenge, et ça s'appelait le Goldies. C'était un lieu qui était vraiment magique, qui était très très bien placé. Donc j'ai commencé, c'est orienté, hein, le slogan, tu te rappelles peut-être, c'était Oldies but Goldies, en détournant et c'était consacré à la musique des Trois Glorieuses, hein, les musiques pendant lesquelles, a priori,
ça aurait dû marcher,
plus de créativité, hein.
Ça aurait dû marcher.
Années 50, 60, 70, ouais. Voilà.
Ça aurait dû fonctionner, c'était bien placé, il y avait de la belle programmation.
C'était génial, beaucoup de gens. Eh bien, la programmation, j'ai programmé à part pour alimenter le fonds de commerce, entre guillemets, qui était barré très, justement, 60s, 70s, tribute band.
Mais oui.
Parce que moi, on a même fait l'inauguration, mon pote qui m'avait embauché comme programmateur m'avait demandé qu'on le fasse avec l'hommage à Pink Floyd. Donc ça a cartonné, et c'était pour faire venir les gens, l'idée, c'était de réunir tous les gens qui avaient, on va dire, plus de 20 ans, puisque on s'est aperçu que les gens qui voulaient sortir, eh bien, au-delà d'un certain âge, il n'y avait rien pour eux.
Ouais.
Et que tout était prévu, en gros, pour les gens de 20 ans, voire moins. Et donc, l'idée, c'était de créer un lieu convivial avec la musique des Trois Glorieuses, voilà, années 50, 60, 70, avec des tribute bands pour que ça puisse faire venir le grand public petit à petit. Tu sais ce que c'est pour lancer un lieu de concert nouveau.
Bien sûr.
Il faut tabler sur quasiment 2 ans avant de fidéliser un
public. À qui le dis-tu, Jérôme? À qui le dis-tu?
Pardon?
À qui le dis-tu, effectivement, pour faire venir les gens?
Tu sais de quoi tu parles.
Mais quand c'est bien placé, c'est bien aussi.
C'était hyper bien placé, voilà. Tu vois, parce que sur les jours off, j'ai refusé même des gros artistes, parce qu'on commençait, je voulais commencer modestement, mais sûrement, mais clairement, c'est au milieu, et donc il y avait des artistes en tournée pour les jours off, c'était idéal, tu vois. Il faut avoir des trucs importants à des prix très très intéressants. Donc au début, on a bien commencé avec les tribute bands, et puis blues, j'ai fait passer pas mal de gens, justement, les Shaggy Dog, Jesus Volt, Nina Van Horn, les Rolling Dominos, voilà, Petit Marty.
D'accord.
Et tout. Et le problème, c'est que il y a eu des problèmes. La personne qui m'employait était associée avec des associés chinois. Lui-même est tombé gravement malade. Et puis après, ses associés chinois, je me suis retrouvé juste avec ses associés chinois comme interlocuteurs. Et eux, là, c'était la catastrophe. Ils voulaient annuler tous les concerts parce qu'ils voulaient faire de l'argent immédiatement.
D'accord.
Et bon, je pouvais pas, sans faire un mauvais jeu de mots, pour eux, le blues et le rock'n'roll, c'était du chinois. Donc, c'était très, très difficile. Je suis arrivé à maintenir, heureusement, tous les concerts qui étaient programmés, par un pieux mensonge d'ailleurs, et puis après ils ont voulu partir sur autre chose et ça s'est cassé.
Voilà, donc les aléas de la programmation. Alors te revoilà parti bien dans les rails maintenant avec cet album Gone Fishing, qui comprend quasiment exclusivement des compositions, il y a une reprise de Tom Waits aussi quand même.
Oui, complètement. Écoute, c'était pas prévu du tout, ça s'est décidé à la dernière minute. Donc j'avais une dizaine de compositions, la plupart que j'avais composées avec ma bidon double manche. Et en fait, la dernière, c'était un boogie très swing, tu vois, ternaire très très rapide, et avec un texte très très ironique aussi, toujours en anglais. Et je me suis aperçu que vraiment, à jouer tout seul, j'aurais pu le faire en studio si tu veux, mais après sur scène, ça aurait été beaucoup mieux de le jouer avec un band, au moins basse batterie, une section rythmique qui groove, tu vois, qui swing vraiment. Et donc je l'ai gardé pour la suite. Ce que je ferai, le prochain album, je le ferai avec des potes musiciens, parce que ça m'éclate aussi, j'adore ça. Mais là, c'est vrai que je me suis pointé avec donc 9 titres, et j'ai cherché, je me suis dit, tiens, ça serait bien que j'ai un cover. Et j'ai vraiment flashé sur cette chanson de Tom Waits, ce qui est paradoxal, bon, puisque ce n'est pas un afro-américain, mais j'adore ce qu'il fait, et c'était le thème d'une série que j'ai adorée. Je suis pas fan des séries vraiment, mais celle-là a été vraiment géniale, c'était The Wire, qui est le même réalisateur que Tremé, d'ailleurs, la série sur New Orleans, après Katrina, voilà. Et la chanson est super, et il y avait 4 ou 5 artistes qui l'avaient reprise, la version originale, étant de Tom Waits, et donc il y avait une version de Neville Brothers, une autre de Blind Boys of Alabama, et donc j'ai fait ma petite bidouille à moi avec ma double manche, voilà.
Une question encore, Jérôme, pour terminer, par rapport à l'enregistrement de cet album, pourquoi aller jusque là-bas, jusqu'aux Pays-Bas, pour enregistrer avec Eric Spaniers? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un d'exception dans le domaine, ou parce que tu voulais absolument ce son-là?
Non, c'est très très simple, ça s'est fait grâce à mon ami Pascal des Shaggy Dogs, qui, si tu nous écoutes,
salut à toi Pascal Redondo.
Ah oui, salut Pascal. Oui, qui est devenu un ami très très proche, qui m'a beaucoup beaucoup aidé pour cet album et le reste, et qui fait un boulot super avec les Shaggy Dogs et tout justement. Enfin, c'est très très simple. Je suis allé là-bas parce que Eric Spanger, c'est un vrai producteur au sens anglais du terme. Tu sais que quand on dit producteur en français, c'est celui qui met l'argent.
Oui.
Mais le terme anglais de producteur, c'est quelqu'un qui est non seulement ingénieur du son et qui est très bon technicien, mais qui a également, surtout, une approche artistique. Des gens comme Phil Spector, pour prendre quelqu'un de pas connu, tu vois, voilà.
Oui.
Et donc, qui sont censés transcender un petit peu le travail de l'artiste et en tirer, entre guillemets, la quintessence. C'est une définition un peu littéraire que je donne du rôle du producteur, mais c'est ça. Et à ma connaissance, en France, pour le blues, il n'y en a pas. Il y a des très bons ingé-sons, et Eric, lui, est un vrai producteur.
Tu évoquais tout à l'heure Jesus Volt, notamment. Bah, ce sont des gens qui enregistrent ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent ici, quoi. C'est pareil.
Bah voilà, Jesus, c'est exactement pareil. Mais les Shaggy aussi.
Les Shaggy aussi.
Avec un producteur anglais. Et les Jesus sont arrivés à s'offrir, entre guillemets, le producteur d'ACDC.
Ouais.
Tu vois, donc ça fait pas rigoler, mais c'est vrai qu'il y a une différence, parce que honnêtement, t'as beau être le plus grand génie du monde, ce qui n'est pas mon cas, sinon ça se saurait, un artiste ne peut pas avoir suffisamment de retour sur ce qu'il fait pour être
bien sûr. Non, mais voilà, et j'allais dire d'autant plus dans ton cas, qui est un artiste qui joue en solo.
Ah oui, c'est terrible, tu vois.
C'est encore plus compliqué quand on est en groupe, j'imagine que quand il y a le batteur, le bassiste qui reste pour le mixage, quand les autres reviennent le lendemain, mais qu'est-ce que c'est que ça, il y a trop de basses, etc. Là, tu risques pas de t'engueuler, mais en même temps, le recul, on l'a pas forcément, quoi.
Ah oui, mais ça, c'est évident. Il faut pas en groupe, si tu veux, parce que je joue en groupe pendant plus de 3 décennies, mais pour les mix, par exemple, les producteurs ou les ingé-sons jettent le groupe. Ils demandent une personne, parce que sinon, ils se suicident.
Non, mais c'est vrai, c'est un travail qui devient impossible.
Mais son grain de sel, le son est déjà fou, quoi, tu vois.
Jérôme,
c'est une histoire de confiance avec le producteur, c'est le cas. Il a vraiment une approche artistique, tu vois.
Voilà. Jérôme, l'album s'appelle Gone Fishing. Écoute, on lui souhaite une bonne route à cet album. Il y a déjà des chroniques qui arrivent un petit peu partout. On va arriver quasiment à la fin de cette deuxième heure de Sweet Home Chicago. On va écouter un nouveau titre. Tout à l'heure, on écoutait Jumping in the Jungle. Là, ce que tu m'as dit m'a donné envie de faire diffuser, de faire écouter aux gens Way Down in the Hole. Ça sera tout à l'heure. Hein. On va écouter d'abord Little Man, si tu veux bien. C'est là encore une co-composition Laurent Bourdier, Jérôme Pietri. Merci Jérôme pour tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, quelque chose que tu voudrais nous dire avant la toute fin de cette deuxième heure?
Je ne sais pas. Ce que je voulais dire, c'est que oui, tiens, tu me parlais de groupe tout seul. Et bien là, bien sûr, j'ai tout enregistré tout seul en studio avec
Chris
Spangers, qui m'a même fait faire mes batteries, parce qu'il a trouvé que justement il y avait une couleur, et pour les bidons aussi. Alors, après, j'ai fait quelques petits heureux quand même. Je me suis payé quelques petits solos, tu vois. Mais effectivement, sur la route, j'ai fait la sortie régionale de mon album chez moi à la coopérative de Nez, qu'on a blindé, d'ailleurs c'était le pied. Mmh. Et là, j'ai fait plusieurs formules, tu vois. Donc ça, je peux faire ça tout seul, ou en duo avec un batteur, tu vois, à deux batteries, ou en trio avec basse aussi, tout ça. Voilà. Donc ça donne pas mal de possibilités.
Ce qui reste très pratique, effectivement, pourquoi pas, pour se produire en live, hein, la formule solo. Oui. C'est pas toi qui me démentiras, Jérôme. Hein.
Oui, complètement. Oui. Donc ça peut être intéressant. J'aime bien les deux. C'est vrai que moi, je m'éclate vraiment.